La première fois qu'apparaît la loi du talion est dans le code d'Hammurabi vers l'an 1730 avant Jésus-Christ dans le royaume de Babylone. Cette loi permettait d'éviter que les personnes ne se fassent justice elles-mêmes et introduisait un début d'ordre dans une société où régnait la loi de la jungle. Le code d'Hammurabi se présente sous la forme d'une liste de plus de 200 jurisprudences et nombre d'entre elles sont empreintes de cette réciprocité du crime et de la peine. La formule « œil pour œil, dent pour dent » revient trois fois dans les écrits de Moïse. Bien plus tard, le philosophe grec Aristote a dit « Si un homme souffrait le mal qu'il a fait, alors il y aurait une stricte justice. » Que ce soit la loi du talion ou la déclaration d'Aristote, elles font penser à une lame de guillotine. Pour ma part, je préfère de loin l'affirmation de l'apôtre Paul quand il écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Mais pour ce qui concerne Édom, la loi du talion lui sera appliquée dans toute sa rigueur à cause de la cruauté dont il a fait preuve envers son frère Jacob. Je continue à lire dans le livre d'Abdias. « Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples, se rapproche à grands pas et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. » Verset 15. L'humiliation d'Édom est un avant-goût du jugement que subiront les nations qui s'attaquent à Israël. Son châtiment est une illustration du jugement à venir de toutes les nations qui aura lieu le jour de l'Éternel. Cette expression apparaît souvent dans les textes sacrés, mais c'est Abdias, le premier auteur, à l'avoir utilisée. Le jour de l'Éternel peut désigner n'importe quelle intervention de Dieu dans les affaires de ce monde sous la forme d'un châtiment. Cependant, la plupart du temps, c'est une référence à cette période historique qui commencera par un jugement de 7 années appelé la tribulation et qui sera suivie par le règne millénaire de Jésus-Christ comme roi de toute la terre. En d'autres mots, le jour de l'Éternel sera l'occasion pour Dieu de révéler sa majesté et sa toute-puissance. Édom subira donc la loi du talion. Il a pillé Jérusalem, il sera lui-même spolié. Il a massacré des fugitifs, il subira le même sort. Les Édomites ont livré des rescapés israélites à leurs ennemis. Eh bien, quand les Édomites seront en fuite, ils se feront refouler. Comme ils se sont réjouis du désastre subi par Juda, ils seront à leur tour humiliés et finalement détruits. Je continue à lire la prophétie d'Abdias. « En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. » Verset 16. Quand les Édomites sont entrés dans Jérusalem, ils se sont laissés aller à une telle célébration qu'elle a dégénéré en orgie. Ils se sont enivrés, buvant goulûment à la santé de leurs idoles au milieu de Jérusalem, la cité de Dieu. De plus, ils ont certainement utilisé de la vaisselle sacrée qu'ils ont pris dans le temple. Ce crime de lèse-majesté ne restera pas impuni. Ils ont aimé boire du vin sur la montagne sainte. Eh bien, ils vont maintenant devoir boire la coupe de la colère de Dieu. Et toutes les nations qui, comme Édom, sont hostiles à Israël et cherchent sa destruction, devront elles aussi goûter à cette même coupe. L'image de la coupe est fréquente dans les Écritures et sert à évoquer le jugement divin qui, semblable à un vin, assomme. Le psalmiste écrit « Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. » Quand Jésus reviendra pour établir son royaume, il détruira tous les gouvernements humains et il ne restera plus rien ni du pouvoir politique des nations, ni de leur puissance militaire. Voilà pourquoi Abdias dit qu'elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Je continue le texte. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Verset 17. Abdias sait très bien que sa patrie sera envahie par les Babyloniens, puisqu'il a donné un avertissement aux Édomites de ne pas se rendre coupables des mêmes crimes que ceux qu'ils ont commis au moment du sac de Jérusalem sous Joram, roi de Juda. Mais ici, il regarde loin dans le futur, le début du millénium, faisant abstraction de tous les événements intermédiaires comme la disparition du royaume des 10 tribus du Nord ou la déportation en masse de Juda et son retour de l'exil. Comme son propos est la restauration d'Israël, il ne parle pas des malheurs qui attendent son peuple. À la fin des temps, les nations qui auront combattu Israël seront anéanties et le peuple juif rentrera en possession de tous les territoires qui lui avaient été promis et qu'occupaient auparavant ses ennemis. Aujourd'hui, les Juifs sont à nouveau dans leur pays, mais pas tous, et ils n'en possèdent qu'une petite partie, et en plus, on la leur dispute constamment. Ils sont obligés d'être armés jusqu'aux dents afin de ne pas se faire refouler dans la Méditerranée par leurs voisins. Les rescapés de la fin des temps comprendront non seulement les descendants de Jacob, mais aussi ceux d'origine païenne qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, le Messie. Je lis un passage. « Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. » Fin de citation. Les uns et les autres formeront une seule communauté, celle des rachetés, et Jérusalem, le lieu saint par excellence, deviendra le seul centre religieux du monde vers lequel afflueront tous les peuples. Je lis un autre passage. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. Je continue le texte. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. Verset 18. En adjoignant Joseph à Jacob, Abdias prophétise la réunification des 12 tribus, ce qui est souvent mentionné dans l'Ancien Testament. Il est vrai que personne des 10 tribus du Nord, emmenées en captivité par les Assyriens, n'est revenu au pays. Cependant, beaucoup d'entre eux s'étaient réfugiés chez leurs frères du Sud, ce qui fait que des membres des 12 tribus initiales faisaient partie du royaume de Juda. En prophétisant que le peuple édomite sera consumé par les Israélites, Abdias ne fait que répéter sous forme poétique et brutale ce qu'il a déjà dit. Édom sera laminé par Israël. Cette prophétie s'est littéralement accomplie au IIe siècle avant notre ère, quand les Édomites furent attaqués et soumis par les Juifs, conduits par la famille de prêtres appelée Maccabée. Mais le pire était encore à venir. Vers l'an 135 avant notre ère, un autre membre de la famille des Maccabées les contraignit à se soumettre à la loi de Moïse et à se faire circoncire sous peine de mort. Les Édomites perdirent alors toute autonomie et toute identité en tant que peuple. Ils s'allièrent aux Zélotes juifs et périrent avec eux lors de la prise de Jérusalem par le général romain Titus. Je continue le texte. Ceux du Négev s'empareront de la montagne d'Ésaü, et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie, les gens de Benjamin s'empareront de Galaad. Verset 19. Abdias décrit les territoires qui, à la fin des temps, seront annexés par Juda et Benjamin, les deux tribus qui forment le royaume légitime d'Israël. Après la conquête du pays promis, les 12 tribus l'ont partagé en tirant au sort. L'héritage de Juda se subdivisait en 3 portions, le sud, la plaine et les montagnes, tout comme dans la prophétie d'Abdias. Un passage du livre de Josué donne le nom de toutes les villes situées dans ces 3 sections, qui sont appelées respectivement la partie méridionale du territoire de Juda, près de la frontière d'Édom, dans le Négev, deuxièmement la plaine côtière, et troisièmement la région montagneuse. Le Négev est une région désertique au sud de la Palestine. Les Juifs qui y habiteront s'empareront du pays d'Édom jusqu'à la mer Rouge, ainsi que de l'Idumée, le territoire qu'occupaient les Édomites après avoir été expulsés de la montagne de Séir par les Arabes nabatéens. Ces annexions sont l'accomplissement de plusieurs prophéties. En voici 2. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël, il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth, Édom sera conquis, Séir, son ennemi, tombera en sa possession. En ce jour-là, moi, l'Éternel, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine, j'emboucherai les brèches et j'en relèverai les ruines, je la redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Les Juifs qui habitent à l'ouest dans la plaine posséderont le pays des Philistins jusqu'à la Méditerranée, ce qui correspond un peu à la bande de Gaza. Je lis une prophétie à ce sujet. Ce district, le pays des Philistins, va échoir aux survivants du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux et changera leur sort. La petite tribu de Benjamin, qui constituait avec celle de Juda le royaume israélite du sud, annexera Galaad, qui se trouvait à l'est du Jourdain et qui à l'origine appartenait à Gad et Manassé, deux tribus rattachées au royaume du nord. Quant aux habitants de Juda, qui n'ont pas été mentionnés, Abdias dit « Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie », ce qui correspond au magnifique territoire de la partie ouest du royaume des 10 tribus, avec sa capitale, qui occupe une situation géographique privilégiée. C'est ainsi qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu, qui inclut à la fois le petit reste fidèle d'Israël et les rachetés de tous les peuples, possédera le territoire qui avait été donné au patriarche Abraham. L'Éternel lui avait dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abdias voit donc le peuple de Dieu représenté par Juda et Benjamin prenant possession de tout le pays promis. Leur agrandissement considérable symbolise l'établissement du royaume de Dieu qui s'étendra sur la terre entière, ce qui se réalisera avec le millénium. Je continue le texte. Les déportés d'Israël, toute une armée qui sont parmi les Cananéens jusque vers Sarepta et aussi loin que Sépharad posséderont les villes du Négev. Verset 20. Au moment de la prophétie d'Abdias, des Israélites déportés étaient emprisonnés un peu partout en attendant d'être vendus comme esclaves aux Grecs ou à d'autres peuples. Aujourd'hui, les Juifs sont disséminés dans le monde entier, Mais au début du millénium, ils afflueront tous vers Jérusalem. Sépharade est une ville inconnue qui n'apparaît nulle part ailleurs. Jérôme, père de l'Église, a dit que ce mot ne désigne pas un lieu, mais veut dire frontière en langue assyrienne. Cela dit, il est possible qu'il s'agisse de Sardes en Asie mineure, la Turquie actuelle, et qui se trouve à quelques 650 km de Jérusalem. C'est l'opinion des spécialistes et des rabbins, et tout à fait plausible, parce que le prophète Joël reproche aux Philistins et aux Phéniciens d'avoir vendu des Israélites aux Grecs. Or, à l'époque du prophète Abdias, Sardes était la capitale de la Lydie, qui était de culture grecque. Sarepta, que mentionne Abdias, est une ville bien connue et qui était importante, comme le prouvent ses ruines. Elle se trouvait en Phénicie, un peu à l'intérieur des terres, entre les villes de Tyr et de Sidon, qui, elles, étaient situées sur la côte de la mer Méditerranée. Aujourd'hui, ces villes sont au Liban. Ce territoire avait été donné par l'Éternel aux Israélites, mais ils avaient négligé de le conquérir. Soit dit en passant que c'est à Sarepta, chez une veuve démunie de tout, que le prophète Élie se réfugia après avoir obéi à l'Éternel en ordonnant au ciel de ne pas donner de pluie. Il fuyait Akab, un très mauvais roi d'Israël Nord qui voulait sa peau. Je finis le livre d'Abdias. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et alors l'Éternel sera roi. Verset 21. Le prophète conclut ses prédictions avec la conquête finale des nations païennes hostiles à Dieu. Elles sont représentées par la montagne d'Ésaü, qui est jugée par des libérateurs. Ce mot décrit les juges qui dirigeaient Israël avant que la monarchie ne soit établie en Israël. Ces hommes et ces femmes avaient une double charge, libérer le peuple de ses ennemis, puis le gouverner. C'est aussi la tâche de ceux que décrit Abdias dans la conclusion de sa prophétie. Ce rôle fut rempli par Zorobabel, qui fut gouverneur de Juda, après le retour d'exil, et par la famille de prêtres appelés les Maccabées, dont j'ai déjà parlé. Ils eurent à lutter contre des ennemis farouches et les vainquirent, puis administrèrent les Juifs de la Judée. Mais ces libérateurs, ces juges, ces hauts personnages n'étaient que des précurseurs du Messie, le Christ, le Seigneur et le libérateur par excellence. Il sera le dernier à venir et à s'asseoir sur la montagne de Sion, le siège du royaume de Dieu sur terre. Dans sa vision prophétique, Abdias regarde loin dans l'avenir quand tous les royaumes de la terre se soumettront au Messie, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui les gouvernera. Le petit livre d'Abdias projette un message puissant. Il montre ce qui arrive à ceux qui, par arrogance, rejettent l'Éternel, le seul vrai Dieu. Alors qu'Édom était prospère, beaucoup en Israël auraient pu dire, comme le psalmiste, « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants ». Mais la voix du prophète Abdias a résonné comme un coup de tonnerre à travers les pages de l'Ancien Testament, et on entend son écho dans le Nouveau. « Ne vous faites pas d'illusions ». Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. » Fin de citation. Les paroles d'Abdias soulignent la justice de Dieu. L'un des auteurs du Nouveau Testament écrit « Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. La dernière phrase du livre d'Abdias, « Alors l'Éternel sera roi », mérite qu'on s'y arrête. D'une certaine manière, l'Éternel règne déjà sur le monde, président souverainement à l'histoire. Pourtant, son nom est bafoué et très peu de gens l'invoquent véritablement. Il est souvent traité comme une idole qu'on appelle à l'aide quand les choses vont mal par une prière ou un petit rite afin d'attirer son attention. Cette fonction de Dieu, purement utilitaire, ne l'honore évidemment pas. Alors il œuvre à établir son règne en amenant tous les hommes à reconnaître son autorité et à se soumettre à lui. Le prophète Abdias parle d'un règne absolu qu'aucune force humaine n'est en mesure d'accomplir. Un jour, Dieu se manifestera comme roi de ce monde et sera reconnu comme tel en la personne de Jésus-Christ, de la lignée de David. Alors s'accompliront de nombreuses prophéties, dont celle émise par Jacob quand il a dit « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Alors sera réalisée la promesse que l'Éternel avait faite à David quand il lui a dit « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Le prophète Zacharie aussi a vu le règne de Dieu sur terre. Il écrit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. » Voilà ce que Abdias et d'autres prophètes ont vu se dessiner à l'horizon dans le lointain. C'est aussi l'attente des croyants. Ils prient « Que ton règne vienne » et crient « Maranatha, viens Seigneur !»